Ok, bah let's go.
Je trouve que vous organisez tout le temps des conférences extrêmement intéressantes, que ce soit pour nous les juristes ou pour les différents visionneurs, auditeurs, spectateurs de ces conférences. Donc merci une nouvelle fois de m'intégrer
Mais merci à toi.
dans vos manifestations.
Merci à toi d'être présente, c'est cool. L'idée d'en faire une par semaine sur des sujets qui sont proches des entrepreneurs suisses romands en l'occurrence, puisqu'on le fait en français, donc suisse romand et essentiellement Genève pour l'instant. Donc l'idée aujourd'hui, c'est on va dire entre 30 minutes et 1 heure peut-être maximum, que tu nous donnes tes insights sur la meilleure façon d'aborder la crise actuelle. Et comme tu l'as très bien évoqué justement dans le sujet, adapter son entreprise aux conséquences d'une force majeure. Je crois que tu as préparé un certain nombre de slides. Donc c'est aussi un peu ton webinaire, Vania. Donc à toi de nous dire comment tu veux qu'on procède. Si tu souhaites expliquer, donner tes insights d'un trait, ou si tu veux le faire de manière interactive et prendre les questions au fur et à mesure qu'elles viennent, ou si tu veux les prendre toutes à la fin, comme tu veux.
Alors, je propose qu'on procède par thème. Donc, déjà, je m'appelle Vania Mejuan, je suis avocate et fondatrice de la société Lawrence Legal. Lawrence, c'est une pardon, comment est-ce que ça marche? Plateforme, pardon, d'orientation juridique qui assiste les entreprises et les particuliers dans leurs requêtes et dans leurs problèmes légaux au quotidien. En fait, le concept est très simple. Le client pose sa question dans les termes qui lui sont propres, dans son propre vocabulaire. Et une fois la situation exposée, il ne s'occupe plus de rien. C'est Lawrence qui se charge de tout. Lawrence évalue ses risques et ses chances de succès et lui propose la solution et l'avocat le plus adapté à sa situation. Si nous intervenons aujourd'hui, c'est pour parler d'une thématique qui est très actuelle. C'est celle des conséquences d'un état déclaré de force majeure et sur la structure sociétale des entreprises suisses. Donc, outre les effets sur la santé publique, le Covid-19 a entraîné avec lui de lourdes conséquences juridiques, et ceci particulièrement pour les petites et moyennes entreprises suisses et internationales. Le virus est désormais qualifié de pandémie et il a forcé plusieurs gouvernements à ordonner des mesures drastiques. Ces mesures qui empêchent les sociétés d'exercer toute leur liberté commerciale qui est généralement leur est allouée par la Constitution. Donc, les gouvernements ont ainsi ordonné deux mesures principales. La première, c'est le confinement qui impose à certaines sociétés de fermer complètement leur établissement et leur activité commerciale. Et la deuxième mesure, c'est la fermeture des frontières qui empêche toute personne, toute marchandise de circuler librement sauf autorisation expresse d'une autorité. Pardon, excusez-moi. Et ceci pour la raison principale qui est d'éviter la propagation en fait de la maladie sur les différents territoires. Alors, toutes ces décisions ont en fait par voie de conséquence un impact sur l'exécution des contrats, que ce soit pour en cas de confinement, les contrats de travail entre les entreprises et les employés et lorsque la frontière est fermée ou lorsque les frontières cantonales sont fermées, l'exécution de contrats commerciaux avec les partenaires de l'entreprise. Donc voilà, on a vraiment ces deux aspects dont nous allons traiter aujourd'hui et je vous propose d'apporter ces deux problématiques en quatre chapitres. Je pense que ces quatre chapitres, vous les voyez là, je les ai présentés sur une slide et au fur et à mesure de ces quatre chapitres, là, tout le monde pourra intervenir à la fin de chacun de ces chapitres. Donc, on introduit d'abord le concept de force majeure et les conséquences dans le monde juridique, dans le monde des contrats. Ensuite, on aborde la thématique des contrats de travail, puis celle des contrats bilatéraux, les commerciaux, donc les contrats commerciaux avec les prestataires de ces différentes entreprises. Et enfin, on va conclure avec les aides étatiques, les subsides, les aides bancaires qui sont prévues actuellement pour limiter ou éviter la faillite des entreprises suisses. Donc, nous tâcherons ainsi de répondre aux questions que vous pouvez tous légitimement vous poser en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employé, en tant qu'employeur, suisse ou international. Voilà. Alors, on commence par l'état de force majeure. Un état de force majeure, qu'est-ce que c'est? Donc, en droit suisse, il n'existe aucune définition légale de la force majeure. Donc, si les parties n'ont pas convenu d'une clause de force majeure, une clause de hardship dans le contrat, les conséquences juridiques diffèrent suivant que l'impossibilité d'exécuter le contrat n'existe que pour une période limitée ou que l'impossibilité et permanente. Donc, en ce qui concerne la pandémie du coronavirus, l'impossibilité d'exécution ne durera que pendant une période limitée pour la plupart des contrats, et ce ne sera pas une durée illimitée qui ne pourra pas être simplement renégociée. Donc, la jurisprudence, en fait, il y a quelques années, a pourtant défini et donné une définition de la force majeure. Il s'agit d'un événement imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté d'une personne, et qui ne peut pas être en fait imputé à l'exploitation de l'entreprise. Donc ça, c'était la seule définition juridique qui a été donnée par un arrêt du tribunal fédéral il y a quelques années. Lorsqu'on parle d'une impossibilité d'exécution, et lorsqu'une impossibilité d'exécution est d'emblée limitée dans le temps, les règles dispositives du Code des obligations, donc là je précise simplement qu'il s'agit des articles 107 à 109 du Code suisse des obligations, ce sont ces règles qui vont s'appliquer. Elles prévoient qu'en cas de demeure d'une partie, c'est-à-dire que lorsqu'une partie ne veut pas exécuter un contrat qui a été convenu d'entendre entre les deux parties ou entre les trois parties, lorsque du coup une partie est en demeure, l'autre partie, celle qui subit les conséquences de cette demeure, peut fixer un délai raisonnable pour l'exécution. Si l'exécution n'a pas lieu pendant ce délai, l'autre partie peut simplement se départir du contrat. En fait, on assiste donc à une libération contractuelle du débiteur qui, dans le cas d'une entreprise, en fait, peut être deux personnes. Ça peut être l'employeur ou le co-contractant. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'il va s'agir de vérifier et d'analyser ensemble, c'est les effets de la libération du débiteur lorsque ce débiteur est une entreprise, et donc dans ce cas, qu'il soit en employeur ou qu'il soit un co-contractant, un prestataire. Donc, l'employeur fait face à des employés auxquels il est lié par des contrats de travail, et il fait également face à des prestataires. Ce sont les parties bilatérales de contrats commerciaux, et par conséquent, sa libération envers les prestataires des 10 contrats. Donc, vraiment bien distinguer dans l'entreprise selon si on se situe envers une relation interne qui est strictement au sein de l'entreprise liée par les contrats de travail qui lient l'employeur aux différents employés, ou s'il s'agit d'une relation contractuelle externe et qui lie les entreprises avec les différents prestataires de services auprès desquels ils auraient pu commander des services. On le verra plus tard. Alors, quid des conséquences dans le cadre du droit du travail, s'agissant de la relation avec ses employés, l'entreprise peut se situer dans deux cas de figure, l'impossibilité d'accueillir les employés qui se trouvent eux-mêmes dans une impossibilité d'accomplir leur travail. On pense notamment, par exemple, aux restaurants, aux entreprises qui ont été obligées de fermer suite aux directives du Conseil fédéral. Et on peut également rencontrer une autre situation, la situation dans laquelle l'entreprise a été obligée de fermer ses locaux, mais dans laquelle les employés ont toujours la possibilité de travailler, mais cette fois-ci à distance, depuis chez eux, en home office. Donc, dans la première situation, celle dans laquelle l'entreprise a simplement dû fermer, comme un restaurant, les employés ne peuvent plus accéder aux locaux. Ces locaux sont indispensables pour l'accomplissement de leur travail, et l'entreprise peut alors faire une demande de réduction de l'horaire de travail auprès de la caisse de chômage auprès de laquelle elle est affiliée. Donc en fait, ça se passe en plusieurs étapes. Comment ça marche? Premièrement, l'entreprise va devoir effectuer sa demande auprès de l'Office cantonal de l'emploi de son canton, ici à Genève c'est l'OCE, qui émettra un préavis. C'est une décision par laquelle elle permettra à l'employeur d'entamer les démarches administratives auprès de la caisse de chômage. Si la décision est favorable, on reçoit en fait une décision favorable partielle, et ça c'est tout à fait normal si c'est partiel. Si c'est partiel, c'est simplement que le temps que l'entreprise a demandé peut-être doit être modifié par l'Office cantonal de l'emploi. Donc si cette décision est favorable, l'entreprise sera alors mise en situation de chômage partiel, ce qu'on appelle aussi dans le jargon le chômage technique. Cette première étape, on l'a fait en fait de manière très simple. Il y a un formulaire. Les cantons en général ont été extrêmement réactifs par rapport à toutes ces procédures qui généralement sont longues, administrativement parlant, elles sont lourdes. Mais là, en fait, c'est très simple. Il faut se rendre sur le site du canton. À Genève, ce sera état.ge.ch et on trouve un formulaire qui s'appelle le formulaire de préavis RHT simplifié. Et en fait, ce formulaire, c'est simplement qu'il faut le remplir avec le nombre d'employés qu'il y a. C'est en fait un formulaire très, très simple à remplir. L'utilisateur est guidé vraiment étape par étape. Il n'y a rien de très complexe là-dedans. Et en fait, il faut le faire au plus vite. Donc, dès que vous avez annoncé à vos employés qu'ils ne peuvent plus travailler dans l'entreprise, il faut soumettre ce formulaire parce que en fait, on peut simplement, dans certains cas, ne pas bénéficier de la rétroactivité de la mise en RHT. Par exemple, si les restaurants ont été obligés de fermer en date du 26 mars, mais dès le 20 mars, un confinement a été ordonné par le canton. Si le restaurant a ordonné au serveur de rester chez eux dès le 20 mars, mais qu'il ne fait la demande que le 26 mars, ces 6 jours, il y aura peut-être un petit gap. C'est pas forcément sûr dans tous les cas. Il faut vraiment voir ça au cas par cas. Donc, je disais que ce formulaire très simple d'accès, il est envoyé à l'adresse rht@teta.ge.ch. Et une fois que la décision est reçue, l'entreprise devra s'annoncer auprès d'une des caisses de chômage cantonales proposées. À Genève, on en a 4. C'est l'UNIA, c'est la SZNA, c'est la CIT et là, c'est la caisse cantonale genevoise de chômage. Donc voilà, 4 différentes possibilités pour obtenir des allocations. Donc une fois que cette décision de l'office cantonal a été rendue, il va falloir procéder par la deuxième étape, c'est la décision auprès de l'assurance, qui, elle, doit être effectuée de manière un tout petit peu plus élaborée, c'est-à-dire qu'on doit apporter toutes les précisions et tous les éléments nécessaires qui, par exemple, tendent à l'information sur les horaires usuels des employés, aux conséquences du confinement sur la réduction des horaires, aux effectifs de l'entreprise, combien est-ce que de salariés est-ce que vous comptez dans votre entreprise, et l'organigramme des employés. Par exemple, si quelqu'un est CEO, il y a un sous-CEO, un vice-président, un secrétaire, un employé A, B, C, il faut vraiment produire un tableau détaillé avec les postes de chacun. Et dans un délai de 10 à 15 jours, la caisse chômage rend en fait une seconde décision et verse à l'employeur, dans le cas de l'approbation de la demande, 80% des salaires qui doivent ensuite être versés aux employés. Donc, l'employeur a le choix de verser ses 20% restants ou non. Donc, ça, c'est vraiment de lui que ça dépend. Mais par contre, il va également devoir s'acquitter de toutes les charges sociales qui incombent aux employés. Donc, attention, là j'aimerais juste mentionner un petit point qui est un peu délicat et que certains employeurs utilisent un peu à mauvais escient, ce sont les vacances. Donc beaucoup d'employeurs se disent « Ah bah tiens, je vais utiliser la possibilité, enfin ce que la loi m'autorise de faire généralement, c'est d'imposer des vacances à mes employés pendant cette période de confinement. » Alors oui, légalement, l'employeur a le droit d'imposer des vacances à ses employés. Par contre, attention, c'est s'il demande un RHT, il n'est pas possible de cumuler ce RHT avec des vacances parce que sinon, ce serait complètement injuste et de mauvaise foi de la part de l'employeur. C'est-à-dire que s'il vous dit « Ok, là, vous êtes confiné à la maison, mais je vous ordonne de prendre des vacances », c'est-à-dire que de prendre les 2 semaines que vous réserviez à Ibiza cet été, eh bien, vous les prenez maintenant, eh bien, ça pourrait être complètement illégal s'il perçoit des RHT de la part de l'État. Dans un second temps, s'il ne perçoit pas des RHT de la part de l'État, l'employé, à mon sens, peut quand même s'opposer à ces vacances forcées. Comment ? En disant simplement que les circonstances actuelles ne peuvent pas lui faire bénéficier de conditions dans lesquelles il pourrait disposer librement de son temps et donc ne peuvent pas être considérés comme des vacances. Voilà, donc ça, je voulais juste mentionner parce qu'il me semble que c'est un sujet un peu tricky en ce moment. Peut-être qu'il y a des questions à ce stade.
Est-ce qu'il y a un maximum dans ce qui peut être versé aux salariés ? Tu parlais des 80%. C'est le maximum classique du chômage ? Donc, c'est limité à 8 000 ou 9 000.
C'est le maximum classique, c'est 80%, mais au maximum, l'employé ne peut recevoir mais c'est quand même une grosse somme, c'est 9 200 et des poussières. 9 200 francs et des poussières, c'est le maximum auquel l'employé peut tendre, quel que soit son salaire, même s'il reçoit 50 000 francs par mois, il ne peut recevoir que ce plafond de 9 500 ou 200.
Ok, très clair, merci.
Voilà.
Ouais, en fait, j'ai une question, c'est plus un commentaire. En fait, moi, je vous appelle de France, mais je pense que c'est quand même tout à fait similaire, même si la loi est techniquement différente. Mais moi, j'ai eu le cas de ma sœur qui donc, a été mise officiellement au chômage partiel 80%. Mais
ouais.
Très bizarrement, en fait, son employeur a quand même demandé aux employés de continuer à travailler.
Ouais.
Donc, en fait, ils sont au travail, mais ils leur demandent de quand même travailler. Donc, on trouve ça un peu…
Donc, ils sont au chômage, mais ils sont quand même obligés de travailler.
Ouais.
Ça, c'est complètement illégal.
Ouais.
C'est complètement illégal. Ça voudrait dire que l'employeur, en fait, reçoit de l'aide étatique pour, en fait, verser des salaires et continuer à percevoir, enfin, continuer à profiter du travail de ses employés. Donc, possiblement continuer à faire du commerce. Et ça, c'est complètement illégal.
Ouais, voilà. Bah, nous, en tout cas, c'était une situation qui s'est trouvée ici. C'est assez hallucinant.
Oui, il faut absolument le dénoncer.
Ouais.
Je ne sais pas où est-ce que la société est basée, mais chaque canton dispose d'une inspection du travail. Enfin, c'est un département qui va en fait limiter tous ces abus. Alors, des abus, il y en a, mais souvent, ils ne sont pas déclarés, on n'en a pas conscience. Donc, en fait, les employés ont tout à fait le droit de dénoncer l'employeur auprès de ces différents départements.
Ouais, en fait, donc, comment tu peux savoir que ton employeur, en fait, touche, en gros, les allocations? Parce que, il peut, enfin, justement, comme il y en a des abus, comment, en fait, en tant qu'employé, tu peux savoir que ton entreprise a fait les démarches et a touché, par exemple, ces allocations?
Il n'y a pas vraiment de manière de savoir, parce que si l'employeur décide de ne pas en parler, il peut tout à fait ne pas en parler. Mais par contre, il est toujours conseillé d'écrire directement aux différents départements d'inspection de la sécurité du travail qui, eux, même si en fait il y a juste un cas de doute, eux vont s'en assurer, eux vont limiter les abus.
Ok, merci.
Voilà. Pas hésiter à le faire.
Moi, j'avais plutôt un commentaire général sur les droits des salariés, même s'ils se rendent compte qu'ils sont abusés par l'employeur. C'est toujours difficile pour eux d'aller le dénoncer, puisqu'on connaît les conséquences et puis on sait qu'il y a une complète asymétrie de pouvoir.
Les dénonciations peuvent être anonymes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'obligation de dire que leur nom, et il faut simplement qu'ils remplissent un formulaire et qu'ils dénoncent l'employeur avec la société, l'adresse. Et le doute, le ressenti que des allocations indues sont perçues par lui.
Et ça sera à l'employeur d'apporter la preuve que c'est faux, ou ça sera du coup au salarié même?
Après, c'est simplement une question entre le département et l'employeur. Le département, s'il constate que l'employeur a perçu des indemnités à tort, peut lui demander de rendre ses indemnités dans un certain délai. Et en fait, la situation là est très compliquée pour les entreprises qui auraient bénéficié d'indemnités et qui se retrouvent dans l'obligation de les rendre dans un certain délai.
Ok, merci.
Voilà. Donc, on l'a dit, droit du travail, relation avec les employés, deux possibilités. Soit l'entreprise doit être complètement fermée sur demande du Conseil fédéral et dans ce cas-là, demande de RHT. Mais dans un second temps, les employés ne peuvent pas accéder aux locaux, mais ils peuvent toujours travailler depuis chez eux. Donc, dans ce cas-là, il faut rappeler simplement le principe qui incombe à l'employeur de protéger la personnalité de ses employés. Par conséquent, c'est à l'employeur de prendre des mesures d'hygiène adaptées et de décider ou non de faire travailler ses employés en home office ou depuis les locaux, mais avec un horaire modifié. En fait, c'est une obligation légale à laquelle il ne peut pas déroger. Et puis, alors, le home office, comment ça marche ? L'employeur doit permettre à l'employé d'effectuer ses tâches quotidiennes comme si aucune mesure n'avait été prise. Il doit lui permettre de prendre connaissance des documents importants, lui autoriser l'installation, par exemple, de l'ordinateur professionnel à la maison. Et dans ce cas, il ne serait pas légal de prévoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de percevoir des indemnités RHT, à moins qu'il apporte la preuve d'une diminution partielle de l'horaire de travail de l'employé. Voilà.
On sait que les horaires de travail seront complètement diminués pour la plupart des gens. Donc, est-ce que du coup, l'employeur ne peut pas demander forfaitairement à l'État ou au canton une aide, puisqu'on sait que tout parent qui doit travailler depuis chez lui ne pourra pas être à 100%. Donc l'horaire de travail, on le sait, mécaniquement est baissé. Personne ne peut prétendre bosser 8h15 par jour dans les mêmes conditions. Donc, est-ce que du coup, l'employeur ne peut pas demander une baisse forfaitaire qu'il n'aura pas
approuvée ? Bien sûr, absolument, absolument. Donc, il y a toujours, il y a plusieurs demandes qui doivent être adressées en termes de chômage, de RHT. C'est soit il n'y a absolument plus, c'est complètement impossible de faire travailler ses employés. Et donc là, il peut toucher 80% des salaires, de la masse salariale. Mais s'il n'y a qu'une diminution, par exemple, de 50, de 60%, bon, c'est déjà une grosse diminution, mais ça, il doit clairement l'expliquer dans sa demande et demander des allocations en conséquence.
Ok, merci.
Voilà. Donc, j'aborde maintenant la troisième partie de cette présentation, celle qui traite de la relation contractuelle entre la société et les divers prestataires. On vise, par exemple, ici le cas de la société A, qui est, imaginons, une société de jardinage, qui plante des arbres dans les jardins de différents clients et qui a mandaté une société B qui, elle, est une société de production de fleurs. Et cette société B a été mandatée par la société A à lui livrer mensuellement des plants de rosiers qu'il faudra planter chez les différents clients. Mais le problème, c'est que la société A ne peut plus effectuer de jardinage chez ses clients, donc elle n'a plus besoin de plants de fleurs de la société B. Et la société B souffre des conséquences économiques désastreuses parce qu'elle se retrouve avec des cargaisons et des cargaisons de rosiers qui, en fin de compte, ne pourront pas être plantées. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? Premier réflexe, c'est de se référer au contrat. Le contrat prime toujours la loi. Et si le contrat prévoit une clause de force majeure, qui est appelée aussi une « hardship clause », la partie souffrante peut se départir du contrat, en fait, sans autre conséquence. Mais il faut toujours que cette partie, bien qu'elle se départisse du contrat, fasse preuve d'une bonne foi totale. Si le contrat ne prévoit rien, donc il n'y a pas de clause qui mentionne le cas de force majeure, pas de hardship clause, et lorsque l'exécution d'un contrat n'est pas entièrement impossible, donc certains jardins sont toujours ouverts, mais par contre, ça devient extrêmement difficile d'y accéder parce qu'ils sont situés dans un autre canton, et la liberté de mouvement qui est extrêmement diminuée actuellement ne permet pas d'aller dans cet autre canton, la partie peut soulever l'exception de la clausula rebus sic stantibus. Donc ça, c'est une formule latine qui veut simplement dire qu'il s'agit d'une situation qui non seulement soulève des difficultés excessives, mais qui était également imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Donc une telle situation, c'est vraiment extrême. Elle permet à une partie d'exiger une renégociation du contrat. En ce moment, en fait, le fait qu'on soit en force majeure permet à tous les contrats commerciaux d'être renégociés. Donc, pas tous, mais la majorité. Les parties peuvent convenir de modifier les termes du contrat ou simplement de résilier le contrat. Si une partie insiste pour que le contrat reste inchangé, l'autre partie peut saisir le tribunal et lui demander de rendre une décision. Là, à nouveau, c'est des procédures administratives qui sont beaucoup plus rapides et simples en temps normal, puisqu'on est dans un cas de force majeure. Le tribunal, à ce moment-là, peut, lorsque les conditions sont remplies, ordonner une modification du contrat ou simplement la résiliation de ce dernier. Et toutes les situations sont vraiment au cas par cas. Donc, on, en fait, dans ce genre de situation extraordinaire, on conseille, en tant que juriste, de communiquer avec le co-contractant, de lui démontrer en fait en toute transparence en quoi le contrat est devenu caduc, impossible à exécuter. Et si, par exemple, on reprend les cas de nos deux sociétés, l'une de jardinage et l'autre de production de fleurs, c'est la société de jardinage qui doit expliquer clairement que les commandes de ses clients ont fortement diminué, qu'il lui est impossible d'accéder au jardin, quitte en fait à prouver sur pièce le déficit de commandes. Enfin, il faut privilégier la négociation en remplaçant le terme du contrat, par exemple, la date de la livraison et simplement le remettre à plus tard. Donc ça, ce ne sera pas une annulation du contrat, mais ce sera une renégociation du terme. Et les deux parties doivent, par contre, faire preuve d'une immense compréhension de bonne foi, de transparence l'une envers l'autre. Cette étape, en fait, est vraiment un peu complexe à effectuer lorsqu'on n'est pas un pro de la négociation, je dirais. Et il est vraiment conseillé de faire appel au conseil d'un avocat ou d'un conciliateur afin que le contrat soit renégocié dans les meilleurs termes pour l'une et l'autre des parties. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions?
Tu parlais des...
par rapport à cette...
Ouais, tu parlais des délais, c'est beaucoup plus rapide que dans le cas d'un hardship. Est-ce que tu peux nous donner une indication de délai? Alors, ça va forcément varier en fonction des sujets, mais...
Ouais, ça varie énormément au cas par cas, mais je pense que là, en ce moment, les audiences ont toutes été limitées à un strict minimum, donc les tribunaux ne peuvent plus opérer en audience, mais par contre... si le cas est suffisamment clair, ce qu'on appelle une procédure de cas clair, alors il peut prendre simplement, je dirais, entre 20 jours et un mois à rendre une décision.
Ok, donc 20 jours, un mois, donc ça c'est un délai plus court qu'un délai classique qui en général est de 2, 3, 4 mois.
3
mois.
Ouais.
D'accord, ok.
Minimum. Merci. Minimum. Voilà, donc enfin maintenant, on va traiter de la quatrième et de la dernière partie, du dernier chapitre de cette présentation qui traite de l'aide que les différentes entreprises peuvent requérir. Affectées par les fermetures d'entreprises et la chute de la demande, un grand nombre de sociétés en fait disposent de moins en moins de liquidités pour couvrir leurs frais courants malgré les indemnités pour réduction de leur heure de travail, les demandes RHT, les allocations RHT. Donc, ce qui a été décidé, c'est qu'un train de mesures complémentaires a été arrêté par le Conseil fédéral pour éviter que toutes ces entreprises, par ailleurs d'habitude solvables, ne se retrouvent pas en liquidité et ne doivent pas simplement déposer leur bilan. Cette aide étatique est effectuée de différentes manières. D'abord, on assiste à un report du versement des contributions aux assurances sociales. Les entreprises frappées par la crise auront la possibilité de différer provisoirement et sans aucun intérêt, un taux d'intérêt, le versement des contributions aux assurances sociales. On parle d'AVS, d'AI, d'APG et d'AC. Donc, AVS, assurance vieillesse, assurance invalidité, assurance chômage, etc. Elles pourront également adapter le montant habituel des acomptes versés au titre de ces assurances en cas de baisse significative de la masse salariale réelle. Ces mesures s'appliquent également aux indépendants dont le chiffre d'affaires a chuté. Ce qui est important à savoir, c'est qu'effectivement, il y a énormément d'indépendants en Suisse et que ceux-ci versent effectivement mensuellement, cotisent aux différentes assurances, mais ne peuvent recevoir qu'une indemnité très faible de la part de l'État en retour. Donc là, l'aide étatique est aussi extrêmement intéressante parce qu'en fait, simplement, ils pourront reporter le versement de ces assurances, les contributions aux assurances, sans intérêt. En fait, on ne pourra pas leur demander de verser des intérêts complémentaires et ou voire même réduire ces montants. Ensuite, l'État a ordonné la suspension des poursuites des faillites. Donc, les débiteurs ne pourront pas être poursuivis, et ce, sur tout le territoire suisse. Donc, ça, c'est vraiment important à noter. La suspension des poursuites et faillites a été décidée par le Conseil fédéral lors de sa séance du 18 mars 2020. Donc, c'est à partir de cette date-là que la suspension rentre en vigueur. Dans un second temps, hormis l'État a ordonné que les banques contribuent à l'aide au financement des différentes entreprises. Il y a une aide immédiate sous la forme de crédit transitoire spécifique qui est accordée. La Confédération va mettre sur place un programme de garantie d'un volume de 40 milliards de francs qui vise à ce que les PME affectées, on parle ici d'entreprises individuelles, des sociétés de personnes ou les personnes morales, obtiennent des crédits bancaires transitoires. Ce programme se fonde sur les structures actuelles des organisations de cautionnement et l'objectif est que les entreprises puissent accéder rapidement à des crédits qui représentent jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel ou d'un montant de 20 millions de francs au plus. Donc, quand on demande des montants jusqu'à 0,5 million de francs, ils seront versés immédiatement par les banques et ils sont couverts en totalité par la garantie de la Confédération. Donc, c'est la Confédération qui se porte garante. Et cette garantie est ramenée à 80% pour les montants qui dépassent 0,5 million de francs et qui vont devoir alors faire l'objet d'un bref examen par les banques. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est non négligeable et je pense que la La plupart des sociétés ne se rendent pas compte de ces conditions extraordinaires qui sont octroyées en ce moment. Voilà, donc maintenant, j'en arrive à la conclusion. Les mesures fédérales drastiques entraînent des conséquences fatales pour tous les secteurs de notre industrie. Heureusement, on fait partie d'une économie qui permet une immense et une très grande marge de manœuvre pour toutes les entreprises et tous les secteurs touchés. Donc, 4 points que nous, avocats, on vous conseille d'appliquer et qui sont extrêmement simples. Le premier, c'est s'informer sur toutes les possibilités offertes aux entreprises de limiter les conséquences des pandémies, que ce soit les mesures d'hygiène ou les mesures d'aide et des allocations étatiques ou bancaires. Ensuite, il faut communiquer, que ce soit avec ses employés, car la société a une responsabilité envers eux pour les rendre attentifs aux risques, aux pertes, aux obligations qu'ils doivent respecter. La communication est essentielle pour un maintien harmonieux des relations professionnelles, mais aussi la communication avec les partenaires contractuels, la négociation, la révision des termes des contrats qui lient la société aux prestataires en faisant preuve d'une transparence et d'une bonne foi absolue. Et enfin, emprunter, car c'est le moment. Les taux d'emprunt n'ont jamais été aussi bas, enfin, ils sont inexistants, pour ainsi dire, et les conditions sont vraiment extraordinaires. Donc, il ne faut pas hésiter à insister, même en cas de refus, car tous les cas peuvent être argumentés en faveur des sociétés. Donc, voilà, faites-vous assister par des conseils juridiques pour un succès absolu. Voilà, donc, je vous remercie pour votre attention. Et voilà, si vous avez des questions sur la dernière partie, qui est l'aide étatique, j'y réponds volontiers.
Moi, j'ai une question sur donc, la quatrième partie, comme tu le disais. Oui. Donc, pour toute demande d'aide supérieure à 500 000 francs, qui ne sera pas versée immédiatement, donc il y aura un examen qui sera fait, il y aura une garantie de 80% de l'État sur...
85, pardon.
Donc, sur les 15% ouais. restants, ça sera le risque du bilan de la banque. Voilà. Est-ce que la banque peut décider un taux plus élevé qu'un taux, j'ai envie de dire, d'avant-crise, même si les taux de référence de la BNS sont très bas? Est-ce qu'elle peut décider d'ajouter une commission plus élevée pour dissuader l'emprunteur de faire appel à ses services?
Alors, normalement,
et si oui,
non.
Est-ce que l'emprunteur peut justement aller se plaindre en disant c'est de la mauvaise foi de la part de l'établissement bancaire qui fait semblant d'être ouvert à discussion, mais en fait me dissuade puisque sur les 15% restants, le taux sera bien plus élevé que les taux du mois de janvier, par exemple.
Voilà. Normalement, non, parce qu'en fait, les directives de la Confédération ont été vraiment très claires en ce que les banques doivent apporter leur soutien et qu'elles doivent le faire sans intérêt. Après, c'est vrai que dans leurs conditions générales, les banques peuvent toujours être un peu malveillantes, est-ce que ça se dit, un peu de mauvaise foi, et d'intégrer des clauses qui vont à l'encontre des directives de la Confédération. Après, je pense qu'il sera pas très compliqué de s'en plaindre, mais que ça risque d'être des procédures longues et coûteuses, comme dans tout droit bancaire, pour les clients qui se voient atteints par ces conséquences. Donc, bien faire attention au préalable. S'il y a le moindre doute quant à la malveillance, la mauvaise foi de ces banques, ne surtout pas s'engager, parce que mieux vaut ne pas s'engager ou s'engager auprès d'un autre établissement bancaire que simplement s'engager dans des conditions qui n'auraient pas été celles proposées par le Conseil fédéral. Parce qu'une fois qu'on est engagé, on a un peu du mal à se défaire de ces contrats avec les banques. Et je pense, à mon sens, donc l'avenir le dira, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais à mon sens, les procédures de plainte du client des non-respects des directives de la banque vont être plus coûteuses lourdes et coûteuses. Voilà. Donc, je pense qu'il faut faire attention et je pense que les banques vont être de bonne foi et qu'elles vont se plier aux directives. Maintenant, on n'est jamais à l'abri du risque et il faut bien se référer aux conditions auxquelles les banques offrent proposent ces prêts supérieurs à 500 000 francs.
J'ai encore une question. On parle beaucoup donc, des entreprises qui font face à une réduction de l'activité ou qui doivent adapter leur activité baissante, mais quid des boîtes qui voient justement leur activité augmenter Je pense par exemple à certaines startups qui font de la livraison de food à domicile, qui ont du mal à faire face à la demande croissante. Est-ce que il y a une aide qui est prévue pour ces boîtes pour recruter plus facilement? Est-ce qu'il y a une facilitation, je ne sais pas, des contrats?
Alors, à ma connaissance, non. À ma connaissance, non, mais c'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de secteurs en fait, qui voient une augmentation de la demande en raison du confinement, que ce soit les services de fooding, effectivement, ou bien ceux qu'on trouve sur les différents sites. Les psys en ligne, les coachs en ligne, les conseils juridiques en ligne, tous ces services, en fait, connaissent une immense demande. Maintenant, je ne connais pas la manière dont l'État peut subvenir à cette demande soudaine. Je pense qu'ils sont beaucoup trop occupés actuellement à faire face aux pertes financières causées par la pandémie et l'état de force majeure. Mais effectivement, ce serait vraiment intéressant et je vais regarder ça tout de suite et puis je vous communiquerai la réponse.
Ok, bah écoute, okay, okay. Bah excellent. Merci génial. Beaucoup, Vania.
Merci à vous, French Tech. Toujours tellement sympa de parler avec vous et d'assister à vos différentes conférences.
On est ravis de t'accueillir, comme d'habitude.
Bravo. Ouais, c'est génial. Merci infiniment.
Merci. Excellent
génial.
Week-end à tout le monde. À vous aussi.
Et
merci,
à
Vania. Salut.
Au revoir. Ciao.